rendu moi au premier amour, ô Seigneur. Accorde-moi un cœur brisé. Et détache mes pensées de tout ce qui est terrestre. Place-moi sur le chemin qui mène au ciel. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi, Seigneur, car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta puissance et révèle-toi à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Chantez avec nous encore, viens du haut des cieux, nous le chantons tous ensemble. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Souffle et agis. Ne reste pas loin. Souffle et agis. Oh, ne reste pas loin. Feu divin. Répands-toi. Tu nous es cher, don céleste. Tu nous es cher, don céleste. Tous ensemble, baptise-nous du haut des cieux. Faut que ta sainte flamme soit vue sur nous. Que ta sainte flamme soit vue sur nous. Et encore ce cœur que tous peuvent chanter dans toutes les langues. Merveilleux, merveilleux, Jésus est mon roi.
Wunderbar, starker Gott, Friede Fürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Segen gebracht. Dann können wir auch gleich noch singen.
Nous pouvons aussi tout de suite chanter, crois seulement, crois seulement.
Glaubet nur, alles ist möglich.
Je l'aime, oui, je l'aime. Oui, je l'aime.
Das teure Gottesblatt,
précieux agneau de Dieu,
das mich geliebt,
qui m'aima et mourut pour moi. Sur la croix à Golgotha, et encore ce cœur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir louange, honneur, gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Ta vérité parcourt tous les pays.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous souhaitons à tous très fraternellement la bienvenue dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous nous réjouissons de ce que nous avons la possibilité de nous rassembler, de nous réunir de loin et de près, de partout, de l'Europe et d'autres pays. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à tous nos amis de l'Amérique du Sud. Et je voudrais d'abord demander que vous puissiez vous lever, vous qui venez de l'Amérique du Sud et qui êtes ici pour la première fois, ici. Où sont nos amis? Ou alors, bon, peut-être que c'est mieux si on ne vous voit pas. Et merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons des salutations et encore des salutations. Je crois que le frère Manfred, je peux te mentionner aussi beaucoup d'autres. Que Dieu vous bénisse. Le frère Miskis, je peux aussi te mentionner. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi ici tous nos amis de la Belgique, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de l'Italie, de la Slovaquie, de la Tchèque, de la Pologne, de la Finlande, de partout. Que Dieu vous bénisse tous, qui nous bénisse tous, particulièrement tous les frères dans le ministère. Que Dieu le Seigneur puisse bénir tous ceux qui viennent pour, ensemble avec nous, écouter la parole de Dieu pour ensuite la pouvoir la transmettre. Sentez-vous bien, sentez-vous à la maison, et comme déjà cela a été mentionné, Dieu est encore à l'œuvre et toutes choses lui sont soumises. Et tel que nous croyons aujourd'hui, c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Dieu est fidèle, les jours de la Bible sont de nouveau là, et Dieu confirme sa parole, il accomplit ce qu'il a dit, ce qu'il a promis aussi. Le frère Boyor remet ses salutations, le frère Paul vient de nous les transmettre. c'est un combattant pour la vérité au Ghana, et nous nous réjouissons simplement de ce que Dieu bénit partout. Et aussi particulièrement, nous avons des salutations du frère Wallström de Kuppenheit, des salutations particulières du frère Étienne Genton. Aujourd'hui, nous avons aussi notre frère de Palermo ici, le frère Davi. Où est le frère Davi de Palermo? Que Dieu te bénisse. Parmi nous, oui, là-bas, c'est un grand ami et frère dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Parmi nous, oui, que Dieu le Seigneur bénisse simplement tous, je le répète, particulièrement nos amis, nos frères de Liège, de Bruxelles, de partout, de loin et de près, de Paris, de Lyon, de Marseille, de partout, et aussi vous tous qui êtes venus, que Dieu le Seigneur nous bénisse ensemble et utilise aussi ce week-end pour que nous puissions être rapprochés du Seigneur et recevoir de nouvelles forces et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, persévérer et savoir simplement que le Seigneur achève son œuvre avec ceux qui ont part à ce qu'il fait dans le présent. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui traduisent, tous nos traducteurs. Parfois, il y a 10 langues ou bien en 10 langues ou bien en 12 langues, il est traduit et 7 de ces langues peuvent être écoutées dans le monde entier en direct. Aussi, nos frères de Johannesburg remettent leurs salutations, nos frères de Kapstadt remettent leurs salutations, tous nos frères de toute l'Afrique remettent leurs salutations, et nous aussi nous saluons d'ici tous fraternellement de tout notre cœur. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. Le cantique 119, plus de bénédictions, le 119. Le cantique 119. Ô plus de bénédiction que ce Christ est déversé. S'écrit la voix éternelle. Nous avons besoin de tant de rafraîchissement, accompli ta promesse. Plus de bénédiction. Nous en avons besoin.
Tropfen der Gnade, sie fallen, sende die Ströme.
Les gouttes de la grâce tombent déjà, accorde-nous tout le fleuve, toute la pluie. Que la pluie de bénédiction se répande, c'est ainsi que Jésus sera honoré. Et que sur les montagnes, sur les vallées, on entendra parler de l'annonce de cette pluie. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce tombent déjà, accorde-nous tout le feu, ô Dieu. Que la pluie de bénédiction se répande. Car cette pluie t'es promise. Accorde-nous les temps de rafraîchissement. Confirme, accomplis ta parole. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce tombent déjà, mais accorde-nous toute la pluie, ô Dieu. Dimanche, à Zurich, pour la première fois, nous avions chanté un cantique qui est en relation avec la Pentecôte. Et je pense que nous faisons bien si nous pouvions aujourd'hui aussi chanter ce cantique, tous les cinq versets. Et je vous demande de tout mon cœur que nous puissions dans la prière le chanter. je demande à tous les traducteurs, si c'est possible, de le traduire fidèlement selon la pensée et la signification des mots dans toutes les langues. Où est notre frère Eric Schmidt? J'aurais bien voulu qu'il puisse venir devant pour chanter ce cantique. Veux-tu le faire, Harry? Ah, le voilà, Eric est là, c'est très bien. Alors, chantez avec nous le cantique 132. Oui, 132 pour ceux qui chantent et pour les instruments 32. Baptise d'esprit et de feu tes enfants partout pour qu'ils puissent, ô Sauveur, fidèlement te servir dans ce temps sérieux. N'accorde pas seulement des dons, mais accorde aussi des fruits qui sont créés par ton esprit en nous, et que chacun volontiers renie à la force de la chair et à ses désirs. N'accorde pas seulement des dons, mais accorde des fruits de l'esprit créés par ton esprit en nous. Pour que chacun de tout son cœur renie la chair et ses désirs. Baptise d'esprit et de feu les disciples, les enfants de Dieu, fonde-les pour qu'ils puissent, avec de nouvelles langues, dans la sainteté, matin et soir, t'exalter et te louer. Fais d'eux des prophètes au Seigneur, que l'Esprit peut utiliser comme il le veut, qui, dans sa puissance, de tout leur cœur, te serve, et aussi demeure ferme. Fais d'eux des prophètes que l'Esprit peut utiliser comme il le veut, qui, dans sa puissance de tout leur cœur, servent et se tiennent. Baptise d'esprit et de feu les personnes âgées qui déjà sont fatiguées du chemin, qu'ils ne puissent pas se refroidir dans l'amour, que tu puisses les rafraîchir dans ta grâce, et que par des songes et des visions, ton mystère soit entièrement manifesté, et que par ton esprit en nous, tu puisses produire ce que ta sainte bouche a prononcé, que par des songes et des visions, ton mystère en eux soit manifesté, et que ton esprit en nous puisse produire les choses que ta sainte bouche a prononcées. Baptise d'esprit et de puissance les messagers que tu as envoyés, qu'ils puissent délivrer ceux qui sont morts spirituellement du péché et de son fardeau. Que rend leur parole épée et marteau qui pénètre et se répand dans le monde entier. vivifie et change la situation misérable. Et que ta puissance se répande dans le monde entier. Que la parole devienne une épée et un marteau qui pénètre et change la situation qui s'est étendue dans le monde entier. Baptise d'esprit et de feu. Tous ceux pour qui cette expérience est préparée, pour que en tant que sacrificateur, ils puissent se consacrer à toi et former un troupeau qui te sert.
Nimm uns alle gänzlich ein.
Accorde ta puissance, prends-nous entièrement à ta disposition. Que tu puisses nous avoir entièrement et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Utilise-nous. Viens toi-même et exerce les dons de l'Esprit. Rends-nous entièrement à ta disposition. Oh, que tu puisses entièrement nous avoir pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous disons Amen à cela. C'est un cantique merveilleux et chaque verset a un poids. Et nous avons les promesses déjà dans l'Ancien Testament que Dieu, dans les derniers jours, répandra de son esprit sur toute chair, voulait répandre son esprit sur toute chair. Et nous avons la confirmation dans le Nouveau Testament que cela a eu lieu. Et en moi, il y a une phrase qui vit, qui s'intitule ainsi. La parole de Dieu crée de la réalité. Tout ce que Dieu a prononcé s'est accompli. Tout ce qu'il a promis va dans l'accomplissement. Si nous regardons seulement, par exemple, dans l'exposé de la création, et qu'une fois encore nous représentons devant les yeux ce que la parole de Dieu a appelé à l'existence. Nous allons plus tard encore revenir à ce que le frère Graff, déjà dans la parole d'introduction, a mentionné, de ne plus tolérer de mélange, mais d'être mis à part, séparé, pour se tenir sous la conduite directe du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et si déjà, d'une manière nouvelle, cela a été mentionné, ce que frère Branham, toujours de nouveau, insistait, disait en insistant, que les deux seront tellement proches l'un de l'autre. L'une, c'est la parole de Dieu originale, et l'autre, ce sont les interprétations. On n'a même pas besoin d'aller loin. C'est ainsi que c'était, déjà depuis le commencement, et c'est ainsi que ça s'est accompli, déjà dans le jardin d'Éden, Dieu, le Seigneur, avait parlé. Et l'adversaire vint et a employé la parole apportée de sa propre manière, et l'interprétation a eu lieu, et la chute de l'homme aussi. Donc, il ne s'agit pas des interprétations et des explications, mais de la parole de Dieu originale, qu'elle puisse habiter en nous tous, demeurer et être en nous. Seulement pour que nous puissions voir la puissance de Dieu, sa parole créatrice et sa puissance de création et de rédemption. Pour que cela nous soit encore représenté devant les yeux, je voudrais lire dans Genèse, le premier chapitre, quelques versets. Genèse, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, quel état sans espérance, sans espoir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant arrive la chose glorieuse et merveilleuse. Dieu parla, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole de Dieu prononcée au prochain moment est devenue une réalité. Dieu avait dit que la lumière sera et la lumière fut. Il avait commandé, ordonné et elle a apparu. Les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et Dieu avait dit que la lumière sera et que la lumière soit et la lumière fut. Jusqu'aujourd'hui encore, les choses sont restées ainsi. L'ordre divin est resté tel que Dieu les a voulu et quotidiennement, elle nous représente devant les yeux la puissance créatrice de Dieu. Et à cela, elle nous fait comprendre que chaque parole que Dieu a prononcée aboutissait dans la réalité. Représentons-nous cela encore une fois devant les yeux. Un état sans espoir et Dieu le misérable de confusion et Dieu dans ce mélange, dans cette confusion, dans cet état sans espoir, prononce une parole créatrice. Et au prochain moment, cet état vide et informe change. Dieu a dit que la lumière sera, que la lumière soit et la lumière fut. Et la chose prochaine, c'est que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Donc la lumière jour et les ténèbres nuit. Je lis encore un peu plus loin. Pour nous montrer la puissance créatrice de Dieu et la puissance de sa parole, pour qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre que la parole de Dieu contient la puissance créatrice de Dieu et que ce que Dieu a dit doit et va s'accomplir. Dans le verset 6, nous lisons, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au dernier verset, donc la fin du verset 7, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Et Dieu parla, et Dieu parla, et cela fut ainsi. Et Dieu parla, et cela fut ainsi, à chaque fois comme ça. Dieu parla, et cela fut ainsi. Maintenant, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Cela me touche le cœur. La parole de Dieu crée de la réalité. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet à Dieu. La parole de Dieu produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Représentons-nous l'univers infini. Et lié à cela, que rien n'existait. Et pour parler avec Hébreux 11, que Dieu l'univers a été formé par la parole de Dieu, du néant, par sa parole créatrice. Bien-aimés frères et sœurs, Hébreux 11, verset 3, et cette puissance créatrice appartient encore à Dieu aujourd'hui. Et sa parole, c'est ainsi que c'est écrit. Notre Seigneur porte tout l'univers par sa parole créatrice. Et ainsi nous avons la promesse que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne passeront jamais. Que ce soit dans Ésaïe 40 au verset 8, que ce soit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre ensuite écrit et dit, et c'est cette parole que nous vous avons prêchée en tant qu'évangile. Ce ne sont pas des interprétations que nous vous avons prêchées. Nous avons prêché la parole de Dieu. Et nous croyons de tout notre cœur que l'Église doit revenir au commencement. Par la puissance de Dieu sera ramenée au commencement, car c'est ainsi que la promesse s'intitule dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Et si aujourd'hui nous pensons au déversement du Saint-Esprit, la Pentecôte par le monde a été fêtée le dimanche dernier. Mais la Pentecôte est une expérience, ce n'est pas une fête, c'est une expérience liée à l'histoire du salut, d'une très grande signification. L'Église avait été rachetée sur la croix à Golgotha. Notre Seigneur était allé en enfer et le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu l'enfer et la mort. Il a mis de l'ordre, avec, il a réglé le compte de tous et il a dit, je vis et vous vivrez. Et vous devez aussi vivre. Et ensuite, avec ses disciples, il a passé 40 jours et il s'est entretenu avec eux du royaume de Dieu. Et ensuite, seulement 10 jours sont restés jusqu'au déversement du Saint-Esprit, jusqu'au fondement de l'Église du Nouveau Testament, qui, avec la vie de Dieu, fut remplie telle. C'est ainsi que l'Église a commencé, avec le déversement du Saint-Esprit, avec l'action surnaturelle parmi ceux qui, pour la première fois, avaient écouté la parole. Car vous savez tous que Pierre avait tenu la première prédication, et voilà que cela a eu lieu, que 3000 hommes, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, ont expérimenté leur conversion et se sont laissés baptiser. Toujours de nouveau, nous avons dans ces derniers temps mentionné que ce n'était pas la force de la prédication, mais c'était l'action du Saint-Esprit. La prédication avait été accompagné par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre sous la prédication. Ce n'était pas la force avec laquelle la prédication avait été apportée, mais c'était l'action du Saint-Esprit. Et tous nous savons que l'Esprit de Dieu réellement doit produire toutes choses. C'est lui qui doit le faire. Et c'est lui qui doit convaincre du péché. Aucun homme de lui-même pourra reconnaître ce que c'est que le péché. Aucun homme de lui-même pourra se répentir. Seulement l'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Seulement l'Esprit de Dieu conduit à la repentance. Seulement l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Et c'est ainsi que nous voyons que notre Seigneur réellement a déjà depuis le commencement appelé ses serviteurs à récolter la moisson. Lui, le semeur, il a semé la bonne semence, et nous qui avons été appelés à prêcher la parole et à récolter la moisson, nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu dans son royaume fait. Je voudrais pour cela lire deux versets bibliques. Les uns dans Matthieu 9 pour nous montrer que d'abord le Seigneur en général a donné une commission, un mandat Et ensuite, dans le chapitre 10, il a mandaté, commissionné les 12 apôtres. Et ensuite, dans l'évangile de Luc, il a encore une fois commissionné et mandaté les 70. Et tous, mais tous en relation avec la moisson qui doit être récoltée. Matthieu, chapitre 9. Ici, nous lisons à partir du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » En fait, c'est ainsi que nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu, comme c'est écrit par Paul aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 6 et 1 Corinthiens chapitre 3. Nous ne construisons pas, bâtissons pas un propre royaume ou bien une propre église. Non, nous sommes une partie du royaume de Dieu, une partie de l'église de Jésus-Christ, maintenant dans la fin des temps. Donc, ensuite, dans Matthieu le chapitre 10, au verset 1, nous lisons, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Et ensuite, nous avons au verset 5, quels sont les 12 que Jésus envoya? Quels sont les 12 que Jésus envoya? Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ainsi que cela a commencé. Dieu a commencé avec Israël. Dieu achèvera avec Israël. Entre-temps, existe laps de temps pour les nations. Ensuite, nous avons la promesse ou bien alors en relation avec ce qui est écrit dans Luc 10. Et ça, c'est pour nous tous très important. Que ce n'est pas seulement 12 qui ont été appelés et envoyés par le Seigneur, mais qu'ensuite 70 furent envoyés avec le même mandat. Chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller ou bien pensait aller. Quelque chose de merveilleux. Là où le Seigneur veut aller, c'est là qu'il envoie, c'est lui qui envoie ses messagers pour qu'ils puissent prêcher son message. Et il va avec eux, il va avec eux. Je le répète, il a envoyé ses disciples là où il devait lui-même aller, où il voulait aller, il les a accompagnés. Et c'est ainsi que cela s'est accompli, que la moisson a été récoltée. Le verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu a toujours fait en sorte que ses messagers prêchent ont prêché sa parole. Et bien, mes frères et sœurs, dans chaque âge, alors que Dieu envoyait un message, il y a eu toujours des hommes qui l'ont porté. Et ici, concernant ceux que le Seigneur lui-même a appelés, il est écrit au verset 16, dans Luc chapitre 10, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Nous avons deux choses, bien-aimés frères et sœurs, et nous n'allons pas pouvoir entrer dans les détails de ces choses, mais dans le monde entier, je suis traité de manière très critique, et particulièrement quand il s'agit de la récolte de la moisson. Et là, il y a des frères qui font que lire ce qui va réellement se passer tout à fait à la fin, tel que dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, cela est dit. Matthieu, le chapitre 3, ici, cela concerne la fin directe qui est prédite, c'est-à-dire quand le Seigneur amassera son blé dans le grenier et brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est la fin directe. Ici, dans Matthieu 3, nous pourrions lire à partir du verset 10. Mais c'est justement dans ce contexte-là que Jean a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et ensuite, ce grand saut est fait jusqu'à la fin, au verset 12. Et il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, nous avons les deux. Le commencement d'être revêtu de la puissance d'en haut pour prêcher l'évangile qui devient seulement la puissance de Dieu pour ceux qui croient à l'évangile, pour ceux qui croient, comme c'est écrit dans Romains chapitre 1, verset 16, que ceux qui croient, l'évangile devient pour eux, l'évangile de Jésus-Christ devient pour eux la puissance de Dieu. Ici, il est écrit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Bien, mes frères et sœurs, nous avons en tout trois parties particulières qui, dans la prédication, doivent être observés. La première partie, c'est l'Évangile, la prédication de l'Évangile éternel de Jésus-Christ, que Dieu personnellement était en Jésus-Christ ici sur cette terre, et ici sur cette terre où la chute de l'homme et la transgression a eu lieu, et là où toute l'humanité a été emportée dans la mort, ici, sur cette terre, c'est ici que l'agneau de Dieu mourut. Ici, sur cette terre, c'est ici que le sang divin a coulé, dans lequel la vie de Dieu était, pour nous racheter, pour nous restituer la position de fils et de fils et de filles, pour que puisse s'accomplir ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, au verset 10 et 11, concernant tous ceux qui sont nés pas selon la volonté de la chair ou bien de l'homme, mais de Dieu. Il faut que cela se passe. La prédication doit aboutir dans la réalité, si nous parlons de la conversion, ou bien nous prêchons la conversion, il faut que la prédication produise la conversion dans laquelle, en tous ceux qui écoutent la prédication, si nous prêchons la repentance, il faut que la prédication produise la repentance sous l'effet du Saint-Esprit et que la repentance devienne une expérience, une réalité. C'est la même chose avec toutes les expériences que nous prêchons et que nous pouvons faire avec Dieu. Et nous avons le meilleur exemple dans la vie et dans le ministère de Frère Branham. Dans la première génération, c'était Pierre, c'était Paul, qui en tant qu'homme de Dieu, d'une manière particulière, furent utilisés. Dans notre temps, ça nous pouvons le confesser et le reconnaître ouvertement et librement, c'était Frère Branham. Et Dieu lui-même décide ce qu'il fait. Il posera la question à personne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais demandé conseil à qui que ce soit. Et dans toute éternité, il ne consultera personne, que ce soit au ciel ou bien sur terre. Il demandera à personne, il n'a besoin de personne pour lui donner un conseil. Il est lui-même conseil, force, Père éternel, Prince de la paix. Lui, il est tout en tout. Mais pour que nous puissions croire le message de Dieu, d'abord l'écouter et ensuite l'accepter, le recevoir. C'est peut-être donc que Dieu, d'une manière surnaturelle, telle que cela n'avait jamais eu lieu auparavant, a confirmé et encore une fois confirmé. C'est une chose qu'un homme dise quelque chose, mais c'est tout à fait une autre chose quand Dieu lui-même est présent et confirme sa parole. Avec Moïse et avec tous les prophètes, c'était la légitimation divine. Ce n'était pas l'homme de Dieu, c'était Dieu qui pouvait utiliser un homme pour révéler à son peuple sa parole et sa volonté. Et nous reconnaissons que Dieu devait choisir un homme. Ce n'était pas possible autrement. Devait choisir un homme. Si lui, il avait donné la promesse, disant, je vous envoie le prophète Élie. Et il compare ce prophète avec le prophète Élie, en disant, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Donc, il fallait que Dieu le fasse. Ce n'était pas possible autrement. Chaque promesse aboutit dans sa réalité. Chaque parole de Dieu devient une réalité. Et c'est ainsi. Soyons sincères. Allons par exemple, repartons au commencement du Nouveau Testament. Jean le Baptiste, un homme de Dieu promis. Cela est à lire dans Matthieu chapitre 3. Cela est à lire dans Matthieu chapitre 11. Cela est à lire dans Marc chapitre 1. C'est à lire dans Luc 3, verset 3 à 6. Dans Marc 1, verset 2 à 4. Dans Matthieu 11, verset 7 à 10. Dans l'évangile de Jean aussi. C'était un homme envoyé de Dieu, mais d'abord, c'était la parole promise, et ensuite, ce que la parole avait prédit à l'avance, s'est accompli. Quand Dieu, par exemple, dit qu'il enverra devant sa face son messager, ça, c'est une chose, c'est une promesse, c'est une parole. Mais quand le temps trouve son le temps arrive, le temps est accompli, alors se passe, donc arrive ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis s'accomplit. C'est ainsi que dans tout le Nouveau Testament, nous avons aussi la preuve que tout ce que Dieu a dit et a promis, a trouvé son accomplissement, est devenu une réalité. Dieu a seulement affaire qu'avec la réalité, avec des réalités. Nous avons lu que Dieu avait dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une réalité. Qu'est-ce que Jean a écrit en tant qu'introduction à son épître? Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché de la parole de la vie, ce que nous pouvions toucher, ce qui existait, ce qui existe, ce qui est devenu une réalité, ce qui est accompli, c'est ce que nous vous prêchons. C'est la même chose aussi dans notre temps. Et bien, mes frères et sœurs, vous savez très exactement que nous avons plus de 200 prédications de Frère Branham en allemand à notre disposition. Il n'y a rien d'autre qui me réjouit le plus que d'entendre que ces prédications de Frère Branham là, ces brochures sont lues. Et c'est dans toutes ces années-là, ça a toujours été ainsi, dans toutes ces années, mais comme d'une manière si puissante, comme dans ces derniers temps, combien de fois j'ai toujours entendu de nouveau quelle grande bénédiction les prédications de Frère Branham sont devenues pour ceux qui, dans le recueillement et dans le calme à la maison, les lisent. Et ainsi, laisse la parole produire son effet en eux. Et ensuite, c'est ainsi que ces prédications deviennent une nourriture spirituelle que nous pouvons consommer et recevoir. Regardez, c'est ainsi. Frère Branham, en tant que prophète, a aussi corrigé les sœurs et prononcé certaines choses. Moi, je ne le fais pas dans cette mesure. Je fais que lire les Écritures. Et je prêche l'évangile et j'apporte l'enseignement biblique. Mais cela appartient à l'évangile. Cela appartient à l'évangile. Que aussi en ce qui concerne ces choses, nous puissions recevoir de tout notre cœur ce que Dieu avait à nous dire. Si par exemple je lis dans Deutéronome chapitre 22, au verset 5, qu'une femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'homme et qu'un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme. Si moi je prêchais ça, cela ne me ressemblerait pas. Mais si Frère Branham le dit et dit, « Sœur, je vous avertis que l'esprit de ce siècle ne vous possède pas. Habillez-vous de manière décente comme des chrétiennes nées de nouveau et ne vous conformez pas à ce siècle présent, etc. » Et quand on entend que ces prédications de Frère Branham là sont lues et que les cœurs sont touchés, cela me réjouit. Vous savez, et que cela est mis en pratique, cela me réjouit. Vous savez que le mandat a été prononcé de manière double. D'un côté, c'est que j'aille de ville en ville pour prêcher la parole. Et pour être sincère, il n'y a pas plus beau que ça. Le frère Schmitt et d'autres frères peuvent le témoigner. Il n'y a pas plus beau que d'aller dans d'autres villes et d'exposer tout le dessein du salut de Dieu dans toute sa vue d'ensemble, comme un résumé de tout le dessein de Dieu et l'apporter au peuple de Dieu. Ici, en cet endroit, nous entrons profondément dans les choses de l'enseignement biblique, toujours plus profondément. Mais dans le monde entier, réellement, tout le conseil du salut de notre Dieu, comme ça, en grande portion, dans ces détails, est montré, et c'est ainsi que le commencement est fait, pour que des hommes aient la possibilité d'être informés et d'être apportés en relation avec ce que Dieu, pour notre époque, pour notre temps, a promis, et avec ce qu'il fait dans ce temps présent, maintenant. Mais encore une fois, revenons au commencement. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit agir, doit être à l'œuvre, doit produire tout. C'est lui qui doit le faire. Même dans Genèse, si l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas sur l'abîme, qu'est-ce qui se serait alors passé? Qu'est-ce qui se serait alors passé? Bien, mes frères et sœurs, si Pierre avait fait que prêcher et que l'Esprit de Dieu n'avait pas été à l'œuvre, n'était pas présent et n'avait pas accompagné sa prédication, qu'est-ce qui se serait passé? Et si, par exemple, nous revenons à ce que la Pentecôte signifie, c'est-à-dire les prémices de la moisson. Vous savez, dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu a montré en image ce qui devait devenir une réalité. Par exemple, la fête de la Pâque avait sa signification. La fête de la moisson avait sa signification. Les prémices qui devaient être agitées, qui ont été agitées devant le Seigneur, avaient leur signification. Dans tout l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, a été montré en image ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament avec l'Église. Je voudrais simplement lire quelques versets bibliques pour vous montrer sur le fondement de la parole de Dieu comment est-ce que dans l'Ancien Testament, déjà, le fondement a été placé pour ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Et pour cela, Seulement, pour que nous puissions tout de suite la voir au commencement, le mot allemand Pfingsten, c'est le mot Pentecôte. Et le mot Pentecôte signifie le 50e. Le 50e jour. Le 50e. Pentecôte signifie 50. Simplement 50. Le 50e jour. Et nous allons voir comment est-ce que les prophéties bibliques, déjà dans l'Ancien Testament, comment est-ce que tout a été ordonné par Dieu. Ici, dans Exode chapitre 23 à partir du verset 14, Exode chapitre 23, ici il est écrit, trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Et ensuite, cela continue. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, etc. Ensuite, au verset 16, tu observeras la fête de la moisson. Nous revenons encore à la moisson. La moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Et ici, nous avons la fête de la moisson. C'est-à-dire, les prémices de ton travail ont du sang semé ont été consacrés à l'Éternel. Consacrés à l'Éternel. Si nous allons dans Lévitique, nous avons encore l'ordre. Comment est-ce que les prémices, donc les premiers fruits de la récolte, les premiers fruits de la récolte ont été consacrés à l'Éternel. Ici, cet ordre est montré encore dans Lévitique, chapitre 23, donc les Lévites, les prémices étaient le premier fruit de la récolte. Lévitique 23, verset 9. Encore une fois, l'Éternel ordonne à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Et ensuite, au verset 11, il est écrit, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. En allemand, afin qu'elle vous rende agréable. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Pourquoi le lendemain du sabbat? Le peuple d'Israël était obligé d'observer le sabbat. Le sabbat était le signe de l'alliance entre Israël et Dieu. Mais ici, il s'agit du jour, du lendemain du sabbat. Quand est-ce que le jour de la résurrection a eu lieu? La résurrection a eu lieu le premier jour, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. La résurrection a eu lieu le lendemain du sabbat. Le jour du sabbat, il y avait le plein repos, le plein repos. Là, c'est en bas, en enfer, que le Seigneur a mis de l'ordre. Mais ici, sur terre, il y avait le plein repos. Et ensuite, le lendemain du sabbat, donc le premier jour de la semaine, c'est là qu'il fut ressuscité. Et ensuite ici, dans Lévitique 23, toujours, à partir du verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures une offrande nouvelle, une offrande de gerbe nouvelle, en allemand, de gerbe nouvelle. Que signifie la gerbe agitée? Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Celui qui vient du champ et qui est déjà assez âgé sait que comment est-ce que, à l'époque, nous avions encore récolté le blé avec la... Comment est-ce qu'on a formé un bouquet avec la gerbe, mais jamais comme ça. À l'époque, on tressait les gerbes l'une avec l'autre. Mais ici, la gerbe, donc le premier fruit de la moisson, les prémices, devait être tressé ensemble, c'est-à-dire inséparable, former une union. Mais c'était seulement la gerbe, donc les premiers fruits de la moisson, les prémices qui devaient être tressés ainsi, seulement eux. Et bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est les prémices, le premier-né, et nous sommes aussi le premier fruit, les prémices, nés de nouveau, pour former justement ce bouquet des gerbes, tresser les gens avec les autres. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et la même chose doit avoir lieu avec nous maintenant, avant de pouvoir être agité. Bien, mes frères et sœurs, moi personnellement, je n'ai rien contre cela, que des personnes apportent leur propre façon de voir. Je n'ai rien contre cela. Mais s'ils conservent leur propre façon de voir et repartent avec, alors ça, je ne trouve pas ça bon. Je pense que nous venons tous de différentes confessions, de différents pays, de différentes cultures, de différents groupes, et nous avons différents enseignements que nous avons quelque part considérés précieux. Vous pouvez avec tout cela venir, mais vous devez les laisser tous ici. Laissez tout ici. Ne pas les conserver, les garder et repartir avec. Ici, Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Et ici, aucun mélange n'a le droit encore d'exister. Et de relation, aucune relation n'a le droit d'exister encore avec des doctrines, des enseignements étrangers. Nous avons été avertis dans la parole d'introduction, dans Josué 23, versets 11 à 14. À l'époque, c'était que Israël n'avait pas le droit de se marier avec ses peuples étrangers. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, en tant que prémisse, en tant que troupeau, en tant que premier fruit de la récolte, séparé, mis à part, sans mélange, c'est ainsi que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Je le répète encore une fois, nous pouvons venir avec tout, mais nous devons seulement le laisser ici, au pied du Seigneur, au pied de la croix, apporter tout au pied de la croix et dire, bien-aimé Seigneur, je ne suis pas ici pour t'exposer mes façons de voir. Non, je suis venu pour être instruit par toi, par ta parole et par ton esprit. Et c'est ainsi que tous nous parviendrons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que Paul a écrit aux Philippiens, si quelqu'un est d'une autre opinion, alors Paul écrit dans Philippiens 3, verset 15, que Dieu lui révèle. Il n'est pas parlé de séparation, il est parlé de ce que Dieu lui révèle. Philippiens 3, verset 15. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, la récolte, le premier fruit de la récolte de blé, en tant qu'appelé gerbe, en tant que prémisse, nous est représenté. Jésus-Christ, lui, en tant que le grain de blé, est tombé en terre et est mort. C'est ainsi que c'est écrit dans Jean 12, au verset 24. Il disait, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais si il meurt, il portera beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que cela s'est accompli. Le Fils de Dieu est mort pour tous les fils et les filles de Dieu. Pour que lui, les prémices, lui, le premier fruit, et nous, les premiers fruits, pour ainsi nous manifester et nous accorder d'être établis dans l'adoption et nous unir avec lui et aussi les uns avec les autres profondément. Je crois que cela se passe toujours plus, que nous ressentons la relation profonde les uns avec les autres. Et bien, mes frères et sœurs, dans la présence de Dieu, chacun se reconnaît lui-même. Alors, il ne s'agit plus du frère tel et tel, ou bien de la sœur tel et tel, mais il s'agit seulement de toi et de moi, il s'agit de nous tous. Et si nous sommes sincères devant la face de Dieu, apparaissons sincèrement devant sa face et que nous disons, bien-aimé Seigneur, tu nous as donné le privilège d'appartenir au troupeau des vainqueurs, au troupeau des prémices, au troupeau du blé que toi-même tu as semé. Nous pourrions aller à Matthieu 13, nous avons souvent à cet endroit et dans d'autres endroits lu ce verset. Le Seigneur est le bon semeur et le semeur qui a semé la bonne semence. Le champ, c'est le monde. Et les enfants du royaume de Dieu, ce sont donc la moisson qui est récoltée. Dans Matthieu 13, versets 37 et 38, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui a semé donc l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Maintenant, nous sommes envoyés à la moisson, mais complètement à la fin. Et ça, je vais vous le lire. Ce n'est plus un prédicateur ou ce n'est plus un prophète qui vont récolter, mais par Dieu lui-même, cela aura lieu. Comme dans Apocalypse, le chapitre 14, déjà à l'avance, cela a été mentionné, ce que ces deux moissons signifie qu'ils seront récoltés complètement à la fin. Mais ça, c'est une autre chose. Apocalypse 14, à partir du verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Je veux plus être sur cette terre dans ce temps. Nous sommes maintenant ici où la moisson, c'est-à-dire concernant la moisson des âmes, est récoltée. Et pour vous montrer ce que cela signifie, ce que nous lisons dans Apocalypse 14, lisons à partir du verset 17. Dans Apocalypse 14. Lisons toujours, sans interpréter. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve. Jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Avec exprès, j'ai lu cela parce qu'il y a des frères qui utilisent des versets bibliques et les sort de leur contexte et les laisse pas à leur place dans l'ordre biblique et les sort de leur contexte pour justifier leur interprétation. Bien, mes frères et sœurs, la chose la plus précieuse que Dieu pouvait nous donner, c'est la première chose, d'avoir la crainte devant lui, la crainte devant sa parole, pour aller seulement d'écriture en écriture, pour nous éloigner de chaque interprétation. Nous laissons chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans le contexte, dans le verset, dans le contexte, là où cela a sa place. Et celui qui veut encore lire cela, il a seulement besoin d'aller dans l'Ancien Testament et de lire, par exemple, dans le prophète Joël et aussi dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 63, au verset 2 à 4, pour savoir quand est-ce que cela va s'accomplir, que nous venons justement de lire dans Apocalypse. Je lis seulement les versets 2, Ésaïe 63, Ésaïe 63, verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve dans Apocalypse? Nous avons aussi entendu parler de la cuve qui est foulée au verset 20. La cuve fut foulée. Et ici aussi, dans Ésaïe 63, verset 2, au verset 3 maintenant, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Vous allez, etc., etc. Ça, c'est déjà le jour de la vengeance, de la rétribution. C'est déjà l'introduction dans le jour du Seigneur, dans le jour de sa colère, dans ce jour terrible et redoutable. Ce qui nous concerne, nous sommes encore dans le temps de la grâce, bien-aimés frères et sœurs. Encore le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Encore sa moisson est récoltée. Car au moment où le dernier entrera, la porte se fermera et le retour du Seigneur aura lieu. Donc, nous avons ce grand privilège reçu de Dieu, maintenant, à la fin du temps de la grâce, d'être conduit à Dieu en tant que les premiers fruits, en tant que les prémices, pour lui être consacré. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, la parole de Dieu aboutit toujours dans sa réalité. Elle produit toujours l'effet pour lequel elle est envoyée. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Auparavant, j'ai mentionné qu'il s'agit de la partie de l'Évangile, que la pure et vraie parole de Dieu en tant qu'Évangile éternel soit prêchée, en tant qu'Évangile qui transforme les hommes qui croient le message de Dieu et devient pour eux la puissance de Dieu, et que ceux qui sont liés soient délivrés, et que la puissance de Dieu se manifeste, et que ceux qui sont captifs soient délivrés. Ça, c'était la prédication de notre Seigneur dans Luc chapitre 4, disant, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, se repose sur moi, disait-il, pour vous apporter le message, la bonne nouvelle, et annoncer aux captifs et aux prisonniers qu'ils soient délivrés. Et ensuite, la partie de l'enseignement. C'est très important. Et Dieu, ainsi, ne laisse pas comme ça son Église aller. Il dit stop. Continuez comme ça. Il lui dit stop devant moi, dit l'Éternel. De moi sort l'enseignement. C'est de moi que sort l'enseignement. Encore, j'ai eu à le dire dans une émission de télévision. Pas ce que les pères de l'Église ont conclu, ont décidé et qui ont désigné après, comme ont déclaré ce qu'ils ont décidé comme enseignement apostolique. Non. Des enseignements qui ont apparu dans le 3e et le 4e siècle, qui ont été formulés par les pères des églises. Et c'est-à-dire dans le temps, et s'il vous plaît, écoutez bien, alors que le paganisme, donc les enseignements des païens, s'est infiltré dans le christianisme, et que le christianisme est devenu une religion d'État, et que ensuite, Cela est devenu une religion. Dans ce temps-là, justement, c'est là, dans les 3e et 4e siècles, qu'ils ont commencé à formuler la divinité, à se représenter la divinité. Et il est écrit, vous le savez tout très exactement, que tous les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Qui peut et veut expliquer Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu est esprit et Dieu se révèle. Et lui qui s'est révélé à nous, nous l'avons reconnu. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si maintenant nous venons, quand nous venons ici et que nous croyons que, par exemple, si nous croyons que le concile, la confession de foi nicéenne et chalcédienne a eu son origine auprès des apôtres, alors il faut qu'on dise que cela n'est pas vrai. Car l'origine de l'enseignement des apôtres est ici dans la Bible. C'est ici dans la Bible qu'est l'origine de l'enseignement des apôtres. Dans aucun autre livre sur terre, nous pourrions trouver l'origine de l'enseignement des apôtres. Et ensuite, si dans Actes apôtres, chapitre 2, verset 42, il est écrit, et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, alors cela ne veut pas dire ce que Athanasius ou bien Augustin ou bien l'un de ses pères des églises quelque part au déroulement des siècles a dit et a formulé. Que ce soit en 325 ou bien en 343 ou bien dans d'autres conciles. Mais ce qui est biblique et tout ce qui est écrit dans d'autres livres en dehors de la Bible n'a aucune justification et comparaison avec la Bible. Soit on doit le dire ouvertement et à haute voix. Dieu parle à son Église. Réellement, seulement par sa parole que nous avons entre nos mains et que nous appelons la Bible et que nous conservons dans notre cœur. De la même manière, aussi avec le baptême d'eau. Il ne s'agit pas de se disputer sur des mots, mais il s'agit de comprendre l'ordre missionnaire et de le lire et de l'accomplir, de l'exécuter exactement, c'est-à-dire de baptiser tel que Pierre, tel que Paul, tel que Philippe a baptisé, ont baptisé. Qu'est-ce que moi, j'ai à avoir à faire avec un baptême trinitaire qui, dans l'histoire de l'Église, en tant que la confession du baptême catholique a été décrit, j'ai rien à voir à faire avec cela. Excusez-moi cette remarque, mais je l'ai faite pour justement dire, ou bien alors pour insister sur le fait que nous venons ici, n'est-ce pas, avec différentes opinions, avec différents enseignements. Mais nous devons les laisser ici. Et nous devons recevoir l'enseignement biblique, la direction biblique, repartir avec la direction biblique, avec l'enseignement biblique, pour que devant Dieu, nous puissions être agités en tant qu'un seul cœur et une seule âme, être tressés ensemble. Et si ensuite la puissance du Saint-Esprit se répand, alors cela aura lieu comme au commencement, que des milliers, et je m'attends réellement de tout, avec tout mon cœur, sincèrement, je m'attends avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec une telle moisson d'âmes comme le monde ne l'a jamais vue. Dieu va encore une fois, pour la dernière fois, faire de grandes choses. Mais l'Église doit devenir une tente d'assignation, une tente de la révélation de Dieu. Elle doit devenir l'endroit dans lequel la puissance de Dieu peut être manifestée. Et tous ceux qui, sous l'écoute de la prédication, écoutent la parole de Dieu, seront convaincus du péché par le Saint-Esprit, conduits à la repentance et expérimenteront leur repentance par la grâce de Dieu. Donc, pas seulement un rappel à la Pentecôte, mais la promesse disant que je restaurerai toutes choses, je vous restituerai les années passées, tout ce qui a été rongé, comme le prophète Joël l'avait vu il l'avait exprimé en image, la première prédication, ou bien alors l'une des premières prédications de frère Branham, était justement sur cette parole du prophète Joël. Sûrement que c'était même la première prédication que autrefois en août 55 j'ai écoutée. Que Dieu restaurera toutes choses, rétablira toutes choses, rétablira tout ce que l'Église du Nouveau Testament avait au commencement. Sera rétabli, tout ce qu'elle avait. Nous voulons persévérer et nous voulons croire, car la parole de Dieu aboutit toujours dans la réalité. Auparavant, j'ai eu à dire déjà que dans l'Ancien Testament, la promesse, les promesses ont été données. Et dans le Nouveau Testament, elles ont été accomplies. Dans l'Ancien Testament, la semence viendra. Et dans le Nouveau Testament, la semence de la femme. Et dans le Nouveau Testament, elle est venue. Galates 4, la parole est devenue chair. Jean, verset, chapitre 1, et a habité parmi nous. Jean, un prophète promis. Et quand le temps fut accompli, il a apparu. Mais il avait déjà été promis. Et ensuite, il a apparu. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole doit et va s'accomplir avant que le ciel passe. Jamais sa parole ne nous confondra et ne nous décevra. Dieu fait ce qu'il a promis. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui, maintenant, de tous les peuples, les langues et les nations, appelle son peuple à sortir. Eh bien, mes frères et sœurs, que je puisse encore dire cela. Le jour de la Pentecôte, il y avait à peu près 16 ou bien 17 différentes nationalités rassemblées. Même le mot arabe est écrit dans les Actes des Apôtres. Même libyen est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Ils étaient tous de tous les peuples de la Libye et de la Libye, de la Brigie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye. Ils étaient tous rassemblés là parce que Dieu avait promis cela. Et je vous pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle de tous les peuples, les langues et les nations? Pourquoi est-ce que les frontières en Europe ici sont tombées? Pourquoi est-ce que tout est devenu ainsi? Comme dans ces dernières années, cela est devenu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et croyez-moi, parfois, un amen de l'Église serait la chose juste. Oui, serait la chose juste. Dieu le Seigneur nous a déterminés dans ce temps à écouter sa sainte parole et la recevoir révélée et à l'ordonner bibliquement aussi le ministère de frère Branham. Et tout ce qu'il a enseigné, l'ordonné bibliquement, réellement, il n'y a aucune question qui serait restée sans être répondue. Aucune parabole. Nous remercions Dieu pour l'introduction entière dans la parole, dans le dessein du salut de notre Dieu, sans nos propres efforts et notre propre intervention. Nous n'avons fait que croire et c'est le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a agréés et qui nous a bénis. Bien-aimés frères et sœurs, je termine avec cette pensée. Si nous pouvons croire ce que Dieu a promis pour ce temps présent, avec cela, nous avons la preuve, par cela, nous avons la preuve que nous appartenons au troupeau qui a été appelé à sortir, qui est mis à part et qui se prépare pour l'enlèvement, qui est préparé pour l'enlèvement. Et ça aussi, nous avons souvent eu à le dire. Comme Israël avait été rassemblé dans le pays, est rassemblé dans le pays de la promesse, c'est ainsi que le peuple de Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations, de toutes les églises libres, est rassemblé sous l'écoute de la parole de Dieu, dans les promesses de la parole de Dieu pour cette époque. Je vous dis, l'enlèvement, un jour, deviendra une réalité divine. La transformation de nos corps deviendra une réalité. la résurrection des morts deviendra une réalité. Tout, fondamentalement tout, ce que Dieu, dans sa parole, a promis, aboutit dans la réalité. Et nous remercions Dieu. Aussi, la transformation de nos corps deviendra une réalité. Aura lieu. Croyez-le de tout votre cœur. Et remerciez déjà Dieu pour cela. La transformation aura lieu au moment où les trompettes retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre et que le Seigneur descendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui sommes restés vivants en Christ, nous serons transformés. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter du salut. Dieu a accompli déjà toutes choses. Tout est dans la rédemption. Et que je dois le dire ouvertement et clairement, la résurrection de notre Seigneur est la garantie et l'assurance de notre résurrection. Sa montée au ciel est la garantie de ton enlèvement. Il est monté pour nous préparer une demeure et il revient bientôt pour nous prendre auprès de lui pour que nous soyons là où il est aussi. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, que Dieu le Seigneur, par sa grâce, puisse reconstruire cette prédication apportée en partie en tant que prémisse, en tant que gerbe, en tant que premier fruit de la moisson. Nous sommes appelés à sortir. Nous sommes tressés ensemble pour former un seul cœur et une seule âme, un corps. Nous nous tenons à la disposition de Dieu et nous lui sommes consacrés pour qu'il puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit dans l'Église par sa grâce. Nous croyons de tout notre cœur et Dieu lui fera tout le reste. À lui, notre Dieu et Seigneur, qui nous a tant aimés et qui a donné sur la croix à Golgotha sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui vraiment a vaincu toutes choses. Comment est-ce que Dieu, avec lui, ne nous donnera pas tout? Il nous a donné tout, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Loué et exalté soit son saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons maintenant ce cœur connu tel que je suis, sans rien de moi.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm.
Nous l'avons dit d'abord, Dieu annonce son dessein du salut en donnant des promesses. Aussi la promesse de l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu quand le temps fut accompli. Et bien-aimés frères et sœurs, les promesses sont devenues une réalité divine. La lumière et la vie vinrent dans l'Église et l'Esprit de Dieu se mouvait et a rempli tous du Saint-Esprit et ils ont parlé en autre langue telle que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tous se sont étonnés. Toutes ces différentes nations, toutes ces différentes langues rassemblées se sont étonnées que dans leur langue, natale, les grands faits de Dieu furent annoncés. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous sommes étonnés de voir que Dieu, dans toutes les langues, nous fait entendre les miracles qu'il a accomplis pour nous et nous fait entendre l'accomplissement des promesses. Et cela va dans le monde entier. Et nous demandons à tous ceux qui sont liés avec Dieu et liés avec nous, d'un bout de la terre à l'autre, soyez bénis au nom du Seigneur. Dieu a visité son peuple plein de grâce. Il s'est révélé à nous. Il a révélé son dessein du salut. Il a révélé sa parole et veille sur nous pour l'accomplir en nous. Et cela va s'accomplir encore jusqu'à ce que la dernière promesse trouve son accomplissement. Dieu ne vient jamais trop tard. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, si aujourd'hui il y a quelques-uns, des jeunes ou bien des personnes âgées, ça n'a pas d'importance de quel pays, s'il y en a encore quelques-uns qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas expérimenté une conversion, qui n'ont pas encore entrepris, foulé le chemin pour marcher dans l'obéissance de la foi, qui n'ont pas encore passé par la porte étroite pour fouler le chemin étroit et qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Le Seigneur passe. Il frappe à chaque cœur. Et ensuite, une parole adressée à tous ceux qui sont encore liés, aussi de différentes manières, et ne peuvent pas eux-mêmes s'aider et se délivrer. Auprès de Dieu, toutes choses sont possibles. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Il appelle encore aujourd'hui tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Pas seulement l'enseignement, pas seulement la parole prophétique. Les choses qui existent au commencement doivent d'abord trouver leur accomplissement. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Les choses qui appartiennent au commencement de la marche doivent d'abord s'accomplir dans notre vie. Que le Seigneur puisse faire devenir ce jour un jour de salut pour tous. Et ça aussi à tous nos frères dans le monde entier. Qu'ils puissent ordonner ce que signifie la moisson dans laquelle, en tant qu'ouvriers, nous avons été appelés. Et ce que signifie la dernière moisson quand le Seigneur lui-même utilisera la faucille tranchante et moissonnera la moisson de la terre et la jettera dans la cuve de sa colère. Faisons la différence des choses. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons de cet endroit prier que Dieu puisse réellement du monde entier accorder à tous les frères dans le ministère la grâce d'être conduit par son esprit dans toute la vérité, jusqu'à que tous, nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, aussi entre les frères dans le ministère. C'est vraiment l'œuvre du diable, par des interprétations, pour détruire toujours de nouveau et diviser le corps du Seigneur. L'œuvre de Dieu consiste à ce que tous puissent prêter l'oreille à la voix du bon berger et revenir au Seigneur abandonner leurs interprétations et laisser seulement la parole de Dieu avoir la première place et avoir raison et être sanctifié en elle par la vérité, par l'esprit, dans la parole de la vérité. Que cela commence d'abord avec nous qui prêchons la parole et ensuite que cela puisse continuer et produire le même effet en tous ceux qui écoutent la parole par nos bouches. J'adresse cela à tous les frères dans le ministère dans le monde entier. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est devant la porte. Ne soyez pas un obstacle, mais soyez des serviteurs qui, justement, ôtent tout obstacle, tout scandale, ôtent tout pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée parmi le peuple de Dieu. Chaque interprétation est un obstacle, est un scandale. C'est peut-être raison que toutes les interprétations doivent être mises de côté et nous devons seulement aller d'écriture en écriture pour que le chemin de cette manière soit frayé au Seigneur et que la gloire de Dieu soit manifestée sous et parmi le peuple de Dieu pour que la fin soit semblable au commencement. Puisse être semblable au commencement et sera semblable au commencement. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Grand Dieu. Nous venons avec tous ceux qui te consacrent leur vie, tous ceux à qui tu as touché le cœur et que tu as appelé. Je te demande que tu puisses te révéler à eux et parler avec eux. Continue à parler avec chacun de nous et que tous nous soyons enseignés par Dieu et que tous, tu puisses nous conduire par ton esprit dans toute la vérité. Bien-aimé Seigneur, accorde-moi ta grâce pour reconnaître ce qui est un obstacle pour toi. Accorde-nous à chacun de nous ta grâce pour que nous puissions nous-mêmes nous examiner devant ta face et venir devant toi. Nous avons qu'un seul souhait, Seigneur, qu'un seul désir, c'est que toi, tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit, ce qui te revient de plein droit, avec chacun individuellement, et ensuite avec toute l'Église, pour que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu soient manifestées dans l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te remercie de ce que tu as sauvé ceux qui sont perdus et que tu as guéri ceux qui sont malades et que tu as délivré ceux qui sont liés. C'est accompli. Et tu t'es révélé à nous que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Et que tous dans le monde entier disent Alléluia. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Sois apporté au Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Chantons « Ô c'est Jésus, ô c'est Jésus. »
Ô c'est Jésus.
Ô c'est Jésus.
Ô c'est
Jésus. Ô c'est Jésus.
Ô c'est Jésus.
Ô c'est Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement
et
son sang m'a purifié.